Seuls de toute la population, les navigateurs de la Guilde des Aventureux n'étaient pas en joie. Car depuis 15 ans, Aldarion n'avait pas quitté Númenor, ni conduit aucune expédition à l'étranger. Et bien qu'il y eût parmi eux de hardis navigateurs qu'Aldarion avait lui-même formés, ils n'avaient point les ressources et l'autorité du fils du roi, et leurs expéditions étaient plus rares et bien moins lointaines, poussant rarement au-delà du pays de Gil-galad. De plus, le bois d'œuvre commençait à manquer sur les chantiers, car Aldarion négligeait l'exploitation des forêts, et les aventureux vinrent le conjurer de se remettre à l'œuvre. Aldarion se rendit à leur vœu, et au début, Erendis l'accompagnait dans les bois. Mais elle se chagrina de voir abattre des arbres dans la force de l'âge, et de les voir équarrir et scier ensuite. Et il arriva bientôt qu'Aldarion y alla seul, et ils furent moins souvent ensemble. Or donc s'ouvrait l'année où tous s'attendaient à voir célébrer le mariage de l'héritier du roi, car ce n'était pas la coutume de prolonger les fiançailles au-delà de 3 ans. Et un matin de ce printemps, Aldarion chevaucha depuis le havre d'Andounié jusqu'à la route qui montait à la maison de Beregar, où il avait été convié. Et Erendis l'y avait précédé, venant d'Arménélos par les voies de la terre ferme. Et comme il atteignait la crête de la falaise qui surplombait le pays et abritait le port des vents du nord, il se retourna et laissa son regard errer sur la mer. Il soufflait un vent d'ouest, coutumier en cette saison et bien aimé de ceux qui souhaitaient mettre le cap sur la terre du milieu, et des vagues aux blanches houppes déferlaient vers le rivage. Et soudainement, le reprit le languir de la mer, comme si une main puissante l'avait saisi à la gorge, et son cœur battait à se rompre, et le souffle lui manquait. Il lutta pour se dominer, et après un temps se détourna et continua sa route. Et délibérément, il passa par les grands bois où il avait entrevu Erendis chevauchant telle l'une des Eldar, il y avait 15 ans de cela. Et il espérait presque l'apercevoir une fois encore sous même semblance. Mais elle n'était pas là, et le désir de contempler son visage lui fit hâter le pas, de sorte qu'il parvint à la maison de Beregar avant la nuit. Et elle l'accueillit avec joie, et il se montra gai. Mais il ne dit mot concernant leur mariage, bien que tous aient cru que c'était là l'objet de sa visite sur les terres de l'Ouest. Et les jours passant, Erendis remarqua qu'il demeurait souvent silencieux en société lorsque tout le monde se réjouissait. Et pour peu qu'elle portât soudain les yeux sur lui, elle le voyait qui la fixait. Et son cœur s'émut, car les yeux bleus d'Aldarion lui paraissaient à présent gris et froids. Et cependant, elle percevait comme une avidité dans son regard, une expression qu'elle ne connaissait que trop, et elle redoutait ce que cela présageait. Mais elle ne dit rien. Et Nuneth, qui observait tout ce qui se passait, en fut soulagée. « Car les mots peuvent ouvrir des plaies, » disait-elle. Sous peu, Aldarion et Erendis s'en allèrent chevauchant vers Arménélos, et comme il s'éloignait de la mer, il retrouva sa gaieté. Mais il ne lui dit rien de ses soucis, car en vérité, il était en guerre contre lui-même et indécis. L'année suivait son cours, et Aldarion ne parlait ni de la mer, ni du mariage. Mais il se rendait souvent à Roména et s'attardait en la compagnie des aventureux. Et lorsque vint finalement l'année suivante, le roi convia son fils dans ses appartements, et la bonne entente régnait entre eux, car rien n'offusquait plus la tendresse qu'ils se portaient l'un à l'autre. « Mon fils, » dit Arménéldour, « quand me donneras-tu la fille dont je souhaite la venue depuis si longtemps ? Plus de 3 ans se sont maintenant écoulés, et cela suffit. Je m'étonne que tu puisses supporter une si longue attente. » Aldarion se tut, mais au bout d'un moment, il dit « Cela m'a pris de nouveau, Atalinia. 18 ans, voilà un jeûne prolongé pour qui a faim, et je peux à peine demeurer au lit tranquillement ou me tenir à cheval, et le dur sol caillouteux meurtrit mes pieds. » Lors, Meneldour fut chagrin, et il eut pitié de son fils. Mais il ne pouvait comprendre son tourment, car lui-même n'avait jamais aimé naviguer. Et il dit « Hélas, mais tu es fiancé, et selon les lois de Númenor et les justes coutumes des Eldar et des Edain, un homme ne saurait avoir 2 femmes. Tu ne peux épouser la mère, car tu es promis à Erendis. » Le cœur d'Aldarion alors se durcit, car ces mots lui rappelaient sa conversation avec Erendis lorsqu'ils chevauchaient à travers les mêliers. Et il pensa, mais à tort, qu'elle avait pris conseil auprès de son père. Et tel était son caractère dès qu'il soupçonnait que d'autres s'étaient entendus pour lui tracer une voie de leur choix, qu'ils se butaient et s'en détournaient. Les forgerons peuvent forger, et les cavaliers chevaucher, et les mineurs fouiller la terre, quand bien même ils sont fiancés, dit-il. Et pourquoi les marins ne pourraient-ils naviguer?
Si les forgerons demeuraient 5 ans rivés à leur forge, rares seraient les femmes de forgerons, dit le roi. Et les femmes de marins sont peu nombreuses, et elles connaissent leur lot d'épreuves, mais c'est là leur gagne-pain et la nécessité de leur existence. L'héritier du roi n'est pas marin de métier, ni esclave de la nécessité.
L'homme connaît d'autres nécessités que celle du pain quotidien, dit Aldarion, et j'ai bien des années devant moi.
Non point, dit Meneldur. Tu tiens pour acquis un privilège qui est le tien propre. Erendis jouit d'une moindre espérance de vie que toi, et ses années déclinent plus rapidement. Elle n'est pas issue de la lignée d'Elros, et elle t'aime d'amour depuis de longues années déjà.
Elle m'a rebuté près de 12 ans, lorsque j'étais tout ardeur, dit Aldarion, et je demande qu'on m'accorde à peine le tiers de ce temps.
Elle n'était pas fiancée alors, dit Meneldur, mais vous n'êtes plus libre, ni l'un ni l'autre. Et si elle t'a rebuté, je croirais volontiers que c'était par peur de ce qui aujourd'hui semble sur le point d'advenir, si tu ne peux te maîtriser. Et pourtant, de quelque manière tu parviens à apaiser cette peur en elle, et même si tu n'as pas parlé ouvertement, tu lui es redevable, à ce que j'en juge.
À cela Aldarion répondit avec colère, « Mieux vaudrait que je tienne conversation moi-même avec ma fiancée, que de m'entretenir ainsi par personne interposée. » Et il prit congé de son père. Peu après, il parla à Erendis de son désir de naviguer de nouveau en haute mer, disant qu'il en avait perdu le sommeil et le repos. Mais elle demeurait là, assise, toute pâle et silencieuse. Au bout d'un moment, elle dit « Je pensais que tu étais venu parler de notre mariage. »
« Et j'en parlerai, » dit Aldarion.
« Il sera célébré dès mon retour, si tu consens d'attendre. » Mais voyant la détresse sur son visage, il fut ému, et il lui vint une idée. « Il sera célébré, » dit-il, « avant la fin de l'année, et au lendemain, j'armerai un navire tel que jamais n'en ont construit encore les aventureux, la demeure d'une reine sur les flots. Et tu navigueras avec moi, Erendis, sous la bénédiction des Valar, et de Yavanna et d'Oromée que tu aimes. Tu feras voile vers des pays où je te découvrirai des forêts comme jamais tu n'en vis, où même aujourd'hui chantent les Eldar, des forêts plus vastes que tout Nouménor, sauvages et libres depuis le commencement des temps, où tu peux entendre encore le puissant corps du seigneur Oromée. » Mais Erendis sanglotait.
« Non, Aldarion, » dit-elle, « je me réjouis que le monde recèle encore de ces merveilles dont tu parles, mais je ne les verrai jamais, car je ne le désire point. Mon cœur appartient au grand bois de Nouménor, et hélas, si par amour pour toi je montais à bord d'un navire, je ne reviendrai pas. Endurer cela est au-dessus de mes forces, car si je perdais la terre de vue, je mourrais. La mer me hait, et maintenant elle se venge de ce que je t'ai tenu éloigné d'elle tout en me dérobant à toi. Va, Seigneur, mais aie pitié et ne me prends pas autant d'années que j'en ai déjà perdu. »
Et Aldarion fut affligé, car il avait parlé à son père dans le feu de la colère, et voilà qu'elle lui parlait avec amour. Il ne navigua pas cette année-là, mais il ne connut guère de paix ou de joie. « Qu'elle perde la terre de vue et elle meurt, » dit-il, « et si je la garde en vue, c'est moi qui mourrai. Alors si notre destin est de vivre ensemble quelques années, il me faut partir, et partir bientôt. » Il s'apprêta finalement à reprendre la mer au printemps, et sur l'île, les aventureux furent seuls à se réjouir parmi ceux qui étaient au courant des choses. 3 navires furent armés, et au mois de Vilessé, ils prirent la mer. Erendis elle-même posa le vert rameau d'Oyolare sur la proue du Palaran, et elle dissimula ses larmes jusqu'à ce qu'il eût doublé les puissantes digues que l'on venait de construire. 6 années et plus s'écoulèrent avant le retour d'Aldarion à Nouménor. Même la reine Almarian le reçut fraîchement, et les aventureux avaient perdu l'estime populaire, car on jugeait qu'Aldarion avait mal agi envers Erendis. Mais de fait, son voyage avait duré plus longtemps que prévu, car il avait trouvé cette fois le port de Vignalondé ravagé de fond en comble, et des mers déchaînées avaient réduit à néant ses travaux de réfection. Et les habitants du littoral se faisaient craintifs à l'égard des Nouménoréens, lorsqu'ils n'étaient pas franchement hostiles. Et Aldarion entendit parler d'un certain seigneur de la Terre du Milieu qui portait haine aux hommes des Nefs. Et lorsqu'il voulut mettre le cap sur Nouménor, un vent sauvage accourut du sud et le chassa loin au nord. Ils s'attardèrent quelque temps au Mithland, mais dès que ses vaisseaux reprirent la mer, ils furent de nouveau emportés vers le nord et jetés parmi les glaces flottantes dans des solitudes périlleuses et ils souffrirent du froid. En fin de compte, la mer et le vent s'adoucirent et comme Aldarion, languissant, se penchait à la proue du Palaran, il aperçut au loin la silhouette du Menel Tarma. Mais son regard tomba sur le vert rameau et il vit qu'il s'était flétri. Lors, Aldarion en fut consterné, car jamais auparavant cela ne s'était vu d'une branche d'Oilolagré, tant qu'elle était baignée par les embruns.
« Elle a gelé, capitaine !» dit un marin qui se trouvait à ses côtés. « Il a fait trop froid, et me voilà la joie au cœur de revoir le pilier !»
Lorsque Aldarion se rendit auprès d'Erendis, elle le considéra avec enthousiasme, mais ne vint pas à sa rencontre. Et il se tenait là, debout, bien contre son accoutumée, ne sachant que dire.
« Assieds-toi donc, seigneur, » dit Erendis, « et tout d'abord, conte-moi tes exploits, car tu as dû voir et accomplir bien des choses durant ces longues années. »
Et Aldarion se mit à parler avec hésitation, et elle demeura là, assise, à l'écouter, tandis qu'il lui faisait le récit de ses épreuves et de ses retards. Et lorsqu'il eut terminé, elle dit,
« Je rends grâce au Valar dont la bénédiction t'a permis de revenir à la fin des fins, et je les remercie aussi de n'être pas parti avec toi, car je me serais flétri plus vite qu'une quelconque verte branche.
Ta verte branche ne s'est pas aventurée dans le froid glacial de son plein gré, répondit-il, mais congédie-moi à présent si tel est ton sentiment, et je pense que personne ne t'en fera le reproche. Et pourtant, oserais-je espérer que ton amour se révélera plus endurant encore que le beau rameau d'Oyolaire.
Tel, oui, il se révèle, dit Erendis. Il ne s'est point glacé comme la mort, Aldarion. Hélas, comment pourrais-je donc te congédier, toi que je revois et qui m'apparaît en ton retour beau comme le soleil à l'issue de l'hiver?
Alors que le printemps et l'été se fassent, dit-il.
Et qu'on ne laisse point voir revenir l'hiver, dit Erendis.
Et c'est ainsi qu'à la joie de Meneldur et d'Almarian, on proclama que les noces de l'héritier du roi se feraient au printemps suivant. Et c'est bien ce qui advint. En l'an 877 du deuxième âge, Aldarion et Erendis se prirent donc pour époux en la ville d'Arménélos, et dans chaque maison résonnait la musique, et dans toutes les rues hommes et femmes allaient chantant. Lors, l'héritier du roi et sa nouvelle épouse chevauchèrent à travers toute l'île à loisir, jusqu'à ce qu'à la mi-été, ils soient parvenus à Andounié, où le dernier banquet devait leur être offert par Valandil, seigneur du lieu. Et tous les habitants des terres de l'Ouest s'y rassemblèrent par amour pour Erendis et légitime fierté qu'une reine de Nouménor soit née parmi eux. Au matin du banquet, Aldarion regarda par la fenêtre de leur chambre à coucher qui donnait sur la mer de l'Ouest.
« Vois, Erendis, » s'écria-t-il, « un navire cingle vers le port, et ce n'est pas un vaisseau de Nouménor, mais l'un de ceux sur lesquels ni toi ni moi ne poserons le pied, quand bien même le voudrions-nous. »
Lors Erendis regarda au dehors, et elle vit une grande nef blanche, environnée d'une nuée d'oiseaux blancs, qui tournoyait dans le soleil. Et ses voiles chatoyaient d'argent, tandis qu'elle filait vers le port dans un sillage d'écume. Et c'est ainsi que les Eldar octroyèrent leur bénédiction aux noces d'Erendis, par amour pour la population des terres de l'Ouest, qu'ils avaient en particulière amitié. Leur navire était chargé de fleurs pour mieux embellir le banquet, si bien que tous ceux qui prirent place à table, quand vint le soir, furent couronnés d'Elanor et de douce Lyswin, dont le parfum est un baume pour les cœurs. Et ils avaient amené également avec eux des ménestrels chanteur qui n'avait point oublié les chants des elfes et des hommes des temps lointains de Nargothrond et de Gondolin. Et les Eldar étaient là, nombreux, beaux et grands, qui siégeaient parmi les hommes aux tables du festin. Mais les gens d'Andunié, contemplant la joyeuse compagnie, dirent que personne ne surpassait en beauté Erendis. Et ils dirent que ses yeux étaient aussi brillants que ceux de Morwen et Ledwen au temps d'autrefois, ou même de ceux que l'on voit à Avalonné. Et les Eldar avaient apporté de nombreux présents. À Aldarion, ils donnèrent un jeune arbre dont l'écorce était d'un blanc de neige et le tronc droit, vigoureux et souple comme de l'acier. Mais il n'avait pas encore sorti ses feuilles. « Grand merci à vous, » dit Aldarion aux elfes. « Nul doute que le bois d'un tel arbre soit d'une grande valeur. »«
Cela se peut, mais nous n'en savons rien, » dirent-ils. « Aucun de ces arbres n'a jamais été abattu. Il donne un frais ombrage l'été et des fleurs l'hiver. Et c'est pour ses vertus que nous en faisons grand cas. »
À Erendis, ils offrirent un couple d'oiseaux gris dont le bec et les pattes étaient d'or. Et ces oiseaux se chantaient doucement l'un à l'autre des mélodies au rythme varié qui ne se répétaient jamais au cours de leur long gazouillement. Mais si on les séparait, incontinent ils volaient l'un vers l'autre et ils se refusaient à chanter une fois séparés.
« Comment les garder ?» demanda Erendis.
« Laissez-les voler en toute liberté, » répondirent les Eldar, « car nous leur avons parlé et nous leur avons dit vos noms. Et ils resteront auprès de vous partout où vous ferez votre demeure. Ils prennent leur partenaire pour la vie. Peut-être y aura-t-il nombre de ces oiseaux qui chanteront dans les jardins de vos enfants. »
Cette nuit-là, Erendis s'éveilla, et un suave parfum flottait à travers les treillis. Mais la nuit était claire, car la pleine lune brillait à l'ouest. Alors, quittant leur couche, Erendis regarda au dehors, et elle vit que tout le pays sommeillait, baigné d'argent. Mais les deux oiseaux étaient juchés côte à côte sur l'appui de la fenêtre. Lorsque les réjouissances prirent fin, Aldarion et Erendis se rendirent quelque temps en la maison de son père, et les oiseaux vinrent de nouveau se percher sur le rebord de leur fenêtre. Et après un moment, ils firent leurs adieux à Beregar et à Nuneth, et chevauchèrent enfin jusqu'à Armenelos, car c'était là, selon les désirs du roi, que devait habiter son héritier, dans une maison qui avaient été apprêtés à leur intention au cœur d'un jardin de hautes futaies. Et on y planta l'arbre des elfes, et les oiseaux des elfes chantèrent sur ses branches.